Nos invités, Alix Bouyaguet, vous êtes éditorialiste politique, Jean-Michel Salvator, chroniqueur au Parisien Week-end, et Jeff Wittenberg, journaliste au service politique de France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Donc Éric Ciotti, nouveau patron des Républicains, il l'a emporté hier soir face à Bruno Retailleau avec 53,7% des voix. Après trois échecs à la présidentielle, Éric Ciotti devra rassembler son camp. Voyez ce sujet de Gaël Giordana et Lounis Khelaf.
Éric Ciotti est le nouvel homme fort des Républicains et sa ligne politique est limpide.
Je veux porter un projet d'une droite claire, assumée, fière d'elle-même.
Travail, autorité, identité, des thèmes plébiscités par Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes arrive devant son concurrent Bruno Retailleau en séduisant plus de 53% des adhérents du parti. Les militants appellent désormais à l'unité.
L'important maintenant, c'est de rassembler, de se rassembler tous.
Maintenant, grâce à Éric Ciotti, nous avons un cap.
Avec Éric Ciotti, le parti créé par Nicolas Sarkozy ne scellera jamais d'alliance avec la majorité macroniste. Fini aussi les primaires pour désigner le futur candidat des Républicains à la présidentielle. Éric Ciotti mise déjà sur Laurent Wauquiez pour 2027.
Aujourd'hui, notre pays est frappé par le déclin, par une forme de décadence aussi. Dans ce moment si difficile pour la France, il faut qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait une espérance.
Des choix stratégiques et politiques qui ne plaisent pas à tous les cadres du parti. Certains ont claqué la porte des Républicains juste après l'élection d'Éric Ciotti.
Alors Alix Bouyaguet, Éric Ciotti sera-t-il l'homme qui va rallumer la flamme des Républicains, est-ce qu'il est bien élu d'abord pour rallumer cette flamme ?
Il est moins confortablement élu qu'on aurait pu l'imaginer. C'est vrai que ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, l'envoquaient, ils avaient été élus dès le premier tour. Lui déjà, il a eu droit à un second tour. Et effectivement, le score est plus serré que prévu. Ce qui est un peu délicat pour lui, hein, c'est que notamment, il arrivait avec un produit d'appel qui était Laurent Wauquiez, c'est-à-dire le fait de dire avec moi, c'est et on arrête les primaires, on met tout de suite un candidat sur orbite. Ce candidat, ce sera Laurent Wauquiez dès l'année prochaine. Ça n'a pas été un plébiscite. Et donc, les petits camarades républicains ne manqueront pas de lui rappeler qu'il est élu, certes, mais qu'ils ne lui ont pas fait un chèque en blanc, qu'il va devoir rendre des comptes et que l'atterrissage en voie royale imaginée pour Laurent Wauquiez ne sera pas aussi évident que ça.
Donc, Jean-Michel Salvator, ça veut dire nouvelle bataille des chefs en vue à droite, parce qu'il y a aussi Xavier Bertrand qui attend son tour. Il y a David Lisnard, le nouveau impétrant maire de Cannes. On pourrait même penser à Bruno Retailleau aussi.
Ouais, Valérie Pécresse, il paraît que elle serait prête à revenir.
Et c'est quand même un parti de droite totalement riquiqui quand on regarde, puisque tous les centristes de la droite sont partis chez Macron, sont partis chez Horizon. Donc il ne reste plus qu'une droite extrêmement dure. Et finalement, c'est sans doute le patron de la droite le plus à droite depuis le début de la Ve République, puisque en fait, c'est...
On se rappelle qu'entre Zemmour et Macron, il avait dit « je ne voterai pas Macron hein. ».
Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, là, c'est la réunion entre la droite sécuritaire qui l'a emporté, c'était Ciotti, face à la droite traditionnelle ou traditionnaliste, qui était Retailleau. Jamais la droite n'a été aussi à droite et jamais la droite n'a été aussi petite. Et ce qui est original dans cette histoire, c'est que finalement, quand on regarde depuis le début de la Ve République, la droite a toujours regardé vers le centre. Et à chaque fois qu'un président de la République ou qu'un premier ministre a une majorité en France, c'était une majorité de droite avec le centre. Et là, pour la première fois, on a un parti de droite qui ne regarde pas forcément du côté du centre, puisqu'on a bien entendu tous les propos extrêmement durs de Ciotti vis-à-vis de Macron. Ils regardent vers, peut-être pas l'extrême droite, ils ne sont pas allés jusque-là, ils sont allés jusqu'au sas de l'extrême droite qui est Éric Zemmour. Mais on ne voit pas très bien quelle est la stratégie d'aujourd'hui. Si c'est pour rester sur une droite finalement assez riquiqui, avec de nouvelles défections qui vont partir du côté de Macron ou du côté d'Édouard Philippe. On ne voit pas très bien ce qui reste, alors qu'ils sont face à un piège qui va être le piège des retraites, où là, ils vont quand même être obligés de s'allier avec Macron.
Jeff Wittenberg, oui, la droite, d'ailleurs, il l'expliquait, Nicolas Sarkozy, c'était tenir les deux, même Juppé, Alain Juppé, tenir les deux bouts de l'omelette, aller de Pasqua au Modem. Quelle va être la stratégie, là ?
Ce qui me frappe dans le prolongement de ce que vient de dire Jean-Michel Salvator, c'est que, précisément, Éric Ciotti a dit hier soir que les Français, enfin pour sortir finalement de l'ornière dans laquelle se trouve la droite depuis des années, pour retrouver les 10 millions, je cite les chiffres, d'électeurs perdus depuis 2007, la victoire de Nicolas Sarkozy, il faut une vraie droite. Mais précisément, comme il vient de le dire Jean-Michel, on est dans une vraie droite de plus en plus, même depuis des années. On a eu Fillon en 2012 qui avait, 2017, excusez-moi, qui avait tenu des propos plus à droite que le Sarkozy de 2012. On a eu François-Xavier Bellamy aux élections européennes. On a eu Valérie Pécresse qui voulait, souvenez-vous, ressortir le Karcher. Donc un discours toujours plus radical et pourtant ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement une partie des électeurs et des cadres vont du côté de chez Macron. Et puis les électeurs de droite, les vrais électeurs de droite durs, entre guillemets, eh bien, comme le disait Jean-Marie Le Pen, ils préfèrent aujourd'hui l'original à la copie et ouais. Ils votent pour le Rassemblement national. C'est une réalité structurelle maintenant de la vie politique. Et effectivement, aujourd'hui, le parti qui a gouverné la France, le parti de Charles de Gaulle, est devenu un parti qui fait moins de 5% à la présidentielle. Et ça, c'est une réalité.
Alix Bouyagué, ça veut dire que les électeurs de droite qui sont partis chez Macron, pour les Républicains, ils sont perdus. Quelque part, c'est un boulevard pour Édouard Philippe, là, qui peut se dire, bon, bah, je vais récupérer le magot.
C'est vrai que Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, pour eux, leur pari, c'est de reconstituer la droite, mais sans les centristes, alors qu'on a toujours connu les gaullistes et les giscardiens, l'UDF et le RPR, et sans les centristes, mais également sans l'extrême droite. Ils ont été clairs. Ça veut dire qu'ils sont pas nombreux et qu'ils ne récupéreront effectivement jamais leurs petits camarades qui ont 2027 en tête. Et effectivement, pour Édouard Philippe, ça peut être une carte à jouer. Éric Ciotti, sa difficulté, c'est qu'il a deux tempos à gérer. Il a le long terme, c'est-à-dire être un parti pivot, une alternance, construire réellement une alternance face à Emmanuel Macron, parce qu'on peut aussi se dire que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron et que les Édouard Philippe, les Bruno Le Maire seront quelque part considérés comme les enfants, ou en tout cas une suite d'Emmanuel Macron et qui pourraient être balayés aussi comme ça. Donc s'inscrire dans une réalité d'alternance. Et puis il y a aussi le court terme, là pour le coup, c'est imposer des positions communes au Parlement, aussi bien l'Assemblée nationale que sur le Sénat. On sait qu'il y a des textes très emblématiques qui arrivent. Il y a la retraite, l'immigration, les énergies renouvelables. On voit que tout ça n'est pas tout à fait vissé. Il n'y a pas toujours les mêmes décisions qui sont prises en fonction des chambres.
Ah oui, en plus.
Et ça, Éric Ciotti va devoir régler ça, c'est-à-dire le court terme et le long terme.
Jean-Michel Salvator, est-ce qu'ils sont encore à vouloir se diviser ou est-ce qu'il y a quand même ce sentiment, attention, là, si on ne fait pas attention, on va disparaître des écrans radars? Un petit peu comme le Parti socialiste qui a terminé à 1,75.
Ils ont sous le nez ce qui pourrait leur arriver. Bon, c'est vrai que les choses sont très compliquées. Alors, ils avaient Wauquiez, il y avait l'opération Wauquiez qui a été lancée par Ciotti. On ne peut pas dire que c'est un échec, mais on ne peut pas dire que c'est un grand succès. Puisque finalement, Ciotti gagne avec 53% des voix, donc c'est une victoire nette, c'est une victoire qui ne sera pas contestée. Mais on ne sent pas... chez les Républicains, un désir de Wauquiez irrépressible. On voit bien que Xavier Bertrand est là, on voit bien que Lisnard est là. Et donc,
il n'y a pas de candidat naturel.
Non, et là, il faut que les choses se décantent. Mais c'est vrai que c'était un gros risque de mettre en selle Wauquiez pour la présidentielle, alors qu'on est quand même à 4 ou 5 ans de l'échéance. C'était peut-être pas tout à fait raisonnable de mettre à ce point la charrue devant les bœufs.
En fait, moi, je pense que Wauquiez, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce qu'attendent les électeurs et même les sympathisants de droite, c'est qu'est-ce que la droite a à dire ? Qu'est-ce que, entre un discours très radical et une pratique qui l'est beaucoup moins, souvenons-nous, par exemple, que le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, a dit qu'il ne voterait jamais une motion de censure. Ça veut dire qu'on est très ferme avec Macron dans les mots, mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. La droite... fait non pas des conciliations, mais joue son jeu institutionnel de façon très responsable, et à l'Assemblée, et surtout au Sénat, qui est aujourd'hui un petit peu le pivot et la clé du passage de certaines lois. Et c'est ça le paradoxe, c'est que le parti aujourd'hui...
Un positionnement pas clair, ambigu, et même pour les députés, c'est pas simple finalement.
Et en même temps, il y a un vrai paradoxe sur la faiblesse qu'on vient d'évoquer de ce parti, qui est historique, et en même temps le rôle pivot qu'il joue, qui est plus important que lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
C'est incroyable, c'est-à-dire ils ne savent pas tirer profit de ce caractère indispensable qu'ils ont à l'Assemblée nationale
et au Sénat.
Oui, mais ils n'ont pas voulu jouer ce rôle-là. Ils auraient pu jouer finalement le rôle des libéraux avec
en Allemagne.
D'être une,
la France indispensable,
indispensable et qui aurait et là ils auraient pu évidemment comme ils étaient indispensables ils auraient pu obtenir davantage de choses de Macron en
c'est ce que plaidait certains ils sont partis
et donc ils n'ont pas fait mais c'est vrai que ce qui est compliqué avec les Républicains c'est que personne n'est d'accord, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les électeurs qui sont à droite, vous avez les militants qui sont encore plus à droite et puis vous avez les députés qui sont peut-être moins radicaux et vous avez les sénateurs qui sont plus plus enracinés
dans la droite territoriale
et finalement tout le monde n'est pas d'accord, personne n'est enfin ils sont tous assez opposés sur la stratégie et sur le degré d'opposition à opposer à Emmanuel Macron.
Ils tirent pas dans le même sens.
Oui, ouais. D'ailleurs le groupe est pas très homogène, il y a 62 députés mais en fait il y a aussi beaucoup de
il y a des courants, fondeurs,
il y a des courants. En fait Olivier Marleix, il peut donner une consigne mais après c'est des individus qui ont chacun leur intérêt et qui prendront chacun leur décision. Je suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron, il offre quoi à la droite depuis le début ? La droite, elle a voté quelques textes quand même pendant l'été. Elle a à un moment un petit peu joué le jeu. Ils n'ont jamais été payés en retour. Tout le monde dit qu'Elisabeth Borne chouchoute les députés LR. Pour en avoir rencontré certains, et notamment ceux qu'on nomme les constructifs, la petite poignée, vous voyez, qui serait soi-disant prêt à passer le pas, eh bien, plusieurs m'ont dit qu'ils n'avaient jamais été approchés par Elisabeth Borne, qu'en fait, elle ne fait absolument pas qu'à deux. Alors peut-être que dans la dernière ligne droite, en janvier, les discussions vont s'intensifier, mais on ne peut pas dire que les députés LR soient extrêmement courtisés par Macron.
Alors, travaux pratiques avec la réforme des retraites sur laquelle Emmanuel Macron n'entend pas reculer en matière d'âge. Hein, ce sera 65 ans, il l'a dit ou il l'a affirmé mercredi dernier lors d'un déjeuner, on avait tous les détails, les convives, le menu, huître, vin blanc et donc le chiffre, 65 ans. Retour sur cette réforme, la droite la votera-t-elle ? Élément de réponse, Gaspard de Florival et Justine Veil.
Pas question de reculer pour Emmanuel Macron, il faudra travailler plus longtemps. Le président souhaite pousser le curseur jusqu'à 65 ans, mais en coulisses, la majorité garde la porte ouverte pour un report à 64 ans. Dans cette entreprise de chaudronnerie, du bruit. Des pièces de métal portées à la force des bras tous les jours. Alors quitter cet atelier à 65 ans divise les ouvriers.
Ben, je vois mes collègues actuellement, ils partent en général vers l'âge de 63, 64 ans. Je pense qu'à une année de plus, ça ne devrait pas changer grand-chose à mon avis.
65 ans à taper sur de la ferraille, c'est pas donné à tout le monde.
65 ans pour tous, inacceptable pour certains qui trouvent plus juste de jouer sur la durée de cotisation.
Je préférerais que les gens qui ont leur trimestre, ils puissent prendre leur retraite, quoi, simplement. Et puis après, parce que entre les jeunes qui font des études et ceux qui commencent en apprentissage à 14 ans, c'est pas pareil, quoi.
Jouer sur les trimestres et non sur l'âge, le scénario est aussi sur la table. Le gouvernement pourrait accepter de descendre à 64 ans. Mais en contrepartie, accélérer l'allongement de la durée de cotisation. Pour la CGT, c'est non.
64 ans, donc c'est 2 ans de plus. Et si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires, vous allez travailler donc jusqu'à 65, 66 ans. Donc c'est la même chose. C'est faire travailler plus longtemps. Et c'est pour ça que c'est une arnaque.
Pour l'instant, tous les syndicats s'opposent au report de l'âge légal.
Jean-Michel Salvatore, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron lance cette réforme aussi impopulaire, rejetée par les trois quarts des Français ? On a des tas de problèmes de coupure d'électricité, d'inflation, de pouvoir d'achat. Boum ! Cerise sur le gâteau, une réforme que les Français ne veulent pas, à part les retraités.
Oui, mais c'est son devoir, si vous voulez. Quand on regarde un petit peu l'état du régime de retraite, et quand on... Vous savez, les retraites, c'est de l'arithmétique. Donc on sait très bien, si vous voulez, quelle sera la situation des caisses de retraite dans 5 ans, dans 10 ans. Donc on sait très bien que le système est déficitaire. On sait très bien qu'il n'y a pas assez, qu'il n'y a pas assez d'actifs pour financer les retraites de ceux qui sont partis. Et donc cette réforme, elle est indispensable. Tous les pays d'Europe l'ont fait. On est les derniers à ne pas être passés à 64 ou 65 ans. Il fait cette réforme, un, parce que c'est son devoir, je dirais, d'État. Deux, parce que c'est une réforme qu'il a promis depuis le début de son premier quinquennat. Il a été empêché par le Covid. Mais là, c'est vrai que s'il ne fait pas cette réforme, je dirais que son double quinquennat aura un bilan qui sera quand même assez faiblard. Donc il est absolument obligé de le faire pour des raisons, moi je dirais pour des raisons de rationalité et pour des raisons économiques. Et il est aussi obligé de le faire pour des raisons politiques, parce que s'il ne le fait pas, je dirais que s'il renonce à la mère des réformes, il renonce.
Il pourra l'inscrire à son actif politique.
Bien sûr, et de toute façon, honnêtement, il ne peut pas faire autrement. S'il ne fait pas cette réforme-là, le macronisme n'existe plus.
Alix Bouyaguet, Valérie Pécresse avait dans son programme l'âge de 65 ans.
François Fillon aussi.
Alors, que vont faire les députés de droite ?
Alors, les députés de droite, ils sont mis d'accord, ce ne sera pas 65 ans, ce sera 64 ans.
Ils pinaillent
parce qu'effectivement, le diable peut se cacher dans les détails. Ils vont être tiraillés parce que logiquement, ça va être compliqué d'expliquer à la fois à leurs élus et puis politiquement qu'ils refusent de valider cette réforme du retraite parce qu'ils sont pour, dans le fond. Donc, ils inversent la donne. Ils disent, nous, on arrive avec nos cahiers des charges, on arrive avec des marqueurs forts. Si on ne retrouve pas ces marqueurs forts, on pourra éventuellement ne pas accompagner cette réforme. Ils veulent des petites retraites alignées sur le SMIC. Emmanuel Macron lui parle de 1 200 euros, une retraite minimum. Ils veulent effectivement.
Il y a un peu de sucré, donc.
Il y a un peu de sucré, il y a un peu de sucré sur la pénibilité, sur les carrières longues. Mais c'est vrai qu'ils ont changé effectivement sur ce départ de l'âge. Ils sont passés de 65 à 64. On pourra aussi imaginer que du côté du gouvernement, on tombe aussi d'accord.
C'est une négociation de départ, l'âge de 65.
Voilà.
On pourrait atterrir à 64.
On pourrait atterrir à 64. Mais après, on en revient toujours à la même chose, à ce groupe qui sera finalement assez libre, chacun avec ses propres arrière-pensées, de voter ou de ne pas voter. D'ailleurs, en son sein, il y a Aurélien Pradier qui est le troisième candidat qui, lui, n'a pas accédé au second tour pour la présidence des Républicains. Lui, il voulait absolument pas toucher au report de l'âge légal. Donc lui-même se dira, il est comme la Jean-Luc Mélenchon.
Jeff Wittenberg, alors hier, on a eu François Bayrou dans le JDD disant nous n'avons pas fait d'effort de pédagogie sur cette réforme des retraites. Pourquoi dit-il cela ? Et il sert à quoi, François Bayrou ? C'est lui qui avait exigé d'Emmanuel Macron qu'il fasse une concertation de 2 mois dont on ne sait pas très bien ce qu'il en est sorti.
C'est une concertation, on peut dire, qui a été un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire et dont on connaissait presque à l'avance.
Les syndicats n'ont pas bougé.
Et ce qu'il faut noter quand même par rapport à la précédente réforme qui a capoté, notamment pour les raisons du Covid, sous le premier quinquennat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un front syndical uni à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la béquille CFDT avec Laurent Berger qui permettait au gouvernement de dire, vous voyez, il y a au moins un syndicat réformiste qui est prêt à jouer le jeu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Là, c'est l'union sacrée des syndicats.
Il y a des relations personnelles dont notoires entre Laurent Berger et Emmanuel Macron qui ne sont pas excellentes. Donc ça, ce n'est pas au crédit du gouvernement. Mais donc, face à ce front syndical, face à cette impopularité de départ de cette réforme des retraites que vous avez mentionné, il y a quand même un espoir du gouvernement et du camp macroniste, c'est que la mobilisation, elle ne prenne pas. C'est qu'on est aujourd'hui, on va être au cœur de l'hiver, que ce n'est pas pour rien que le calendrier finalement s'accélère. Et le gouvernement, ce n'est qu'un espoir, on verra bien ce qu'il se passe, table sur des manifestations qui ne feront pas forcément le plein, une situation suffisamment confuse et une certaine résignation des Français, parce que ce n'est quand même pas la première réforme des retraites qui arrive sur la table. Il y en a eu des précédents gouvernements à chaque fois, même depuis l'époque d'Alain Juppé, notamment sur les régimes spéciaux. Peut-être espère le gouvernement que cette fois, les Français, malgré leur réponse première au sondage, se disent « bon, il faut quand même, ne serait-ce que par rapport à nos voisins, faire cette réforme, même si elle est douloureuse, même si elle change nos habitudes. Après tout, pourquoi la France ne se mettrait pas au diapason ? C'est l'espoir, en tout cas, du camp macroniste.
C'est vrai, Jean-Michel Salvatore, sur ce climat social, quand François Bayrou, hier, à nouveau, disait « je ne crains jamais les mouvements sociaux », Emmanuel Macron donne l'impression aussi de ne pas craindre de mouvements sociaux s'il va bravache au 65.
Il craint quand même. Enfin, c'est quand même... Enfin,
il sait qu'il y en
aura,
mais...
Il a quand même été vacciné par les gilets jaunes. C'est vrai que, les manifestations des Gilets jaunes ont été extrêmement violentes. Et, et, par certains aspects un peu insurrectionnels. Donc, si vous voulez, non, je pense que...
L'opposition à la réforme des retraites pourrait échapper aux syndicats et devenir un mouvement type gilet jaune avec occupation des ronds-points.
Honnêtement, là, on n'en sait rien. Les dés roulent. Ouais. Les déroulent. On voit bien que, comme on l'a dit à l'instant, on voit bien que le gouvernement n'a pas de lien particulier avec un syndicat qui pourrait lui permettre de faire passer d'une certaine façon la réforme. Sarkozy avait de bonnes relations avec Thibault et la CGT. Ensuite, ça a été beaucoup la CFDT qui a joué ce rôle-là. Là, il y a une opposition unie, comme on l'a dit. On ne sait absolument pas s'il peut y avoir une cristallisation avec tous les mécontentements ou si ça peut passer, si finalement la pédagogie depuis le temps, parce que bon, quand Bayrou dit la pédagogie n'a pas été faite, c'est une blague quand même.
Des années.
Ça fait des années qu'on en parle. La campagne présidentielle s'est faite sur ce sujet. Il essaye de faire entendre sa petite musique. Alors, ce qui est intéressant dans l'argumentation et dans le document qu'il a produit, c'est finalement le coût caché des
toutes les subventions que donne l'État pour que le système tienne.
Exactement. Où là, on voit qu'il y a finalement un déficit qui est beaucoup plus important, ouais. Qui est autour de 30 milliards. Bon, ok. Mais dire qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est une blague. En fait, tout le monde sait très bien à quoi s'en tenir. Il y a peut-être décantation et peut-être que là, la réforme passera, ou au contraire, il y aura peut-être cristallisation et là, il y aura et peut-être là, un mouvement social mouvement très social. Important. On n'en sait rien.
Oui.
Non, je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron, effectivement, bizarrement, il redoute quelque chose de très traditionnel, les retraites, les gens dans la rue, tout ça. Lui, c'est plutôt la petite étincelle. Justement, les gilets jaunes, c'est pas quelque chose qu'on avait vu venir. C'est tout d'un coup les 80 km/h qui mettent le feu aux poudres et puis les gilets jaunes sur les ronds-points. Là, il me semble que...
Là, on les voit venir.
C'est une manif à l'ancienne.
Et puis, il se dit qu'il a été élu là-dessus, qu'il a prévenu avant, pendant, après, qu'il y a eu des législatives qui ont aussi tranché. Il a certes pas la majorité absolue, mais il a la majorité relative. Il estime qu'il a un mandat et que les gens sont prévenus. Après, je pense qu'il a quand même fait une petite erreur. On parlait tout à l'heure, on disait Nicolas Sarkozy, il avait Bernard Thibault, tout ça. Emmanuel Macron, il aurait dû mieux traiter le patron de la CFDT. Tout ça, c'est...
Il a dit, je baisse à 64 s'il soutient ma réforme. Hein. C'est un petit peu le deal qu'il voudrait passer.
Mais c'est vrai que l'horreur originelle, elle a été faite au cours du premier mandat, où effectivement, Laurent Berger était plutôt de très bonne composition, où là, il y avait une carte à jouer, il y avait une possibilité de faire vraiment bouger les choses, et où effectivement, Emmanuel Macron a vraiment claqué la porte au nez à Laurent Berger. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui les positions soient figées. Tout ça risque quand même de se finir par un 49-3.
Passage en force. Alors, pour éviter que la grogne sociale ne s'exprime trop violemment, le gouvernement multiplie les ristournes. Et le dernier en date, donc avec la fin de la ristourne sur l'essence, ce sera un chèque carburant de 100 euros réservé pour les gros rouleurs, mais qui sera sous condition de ressources. 10 millions de Français pourraient profiter de ce chèque carburant. Les détails avec Alexandre Perroux et Mathieu Nivelnotsky.
À l'approche de Noël, nouveau geste pour les automobilistes. Le gouvernement a dévoilé son indemnité carburant. 100 euros pour les travailleurs les plus modestes en 2023. Une aide bienvenue dans cette station-service de la Vienne.
Très bonne nouvelle. En gasoil, eh bien, ça me permet de tenir quasiment 15 jours.
100 euros, c'est pas, on crache pas dessus.
Au niveau de carbone qui coûte cher en ce moment, ça va nous aider beaucoup.
Une aide versée sous condition de revenu. Un célibataire devra par exemple toucher moins de 1314 euros net par mois. Ce sera 3941 euros pour une famille avec deux enfants. Et si chacun des parents a une voiture, chacun touchera 100 euros. Les véhicules thermiques, hybrides et les deux roues seront éligibles. Côté démarche, l'exécutif promet la simplicité. Sur le site des impôts, il faudra entrer sa plaque d'immatriculation et envoyer une déclaration sur l'honneur, certifiant que l'on prend sa voiture pour aller travailler. Mais certains Français jugent la nouvelle mesure insuffisante et trop excluante.
100 euros sur une année, c'est rien du tout, quoi. Sur l'essence, il y en a qui partent au travail. 100 euros, c'est quoi? C'est une semaine. Voilà, quoi. Il faudrait une aide au quotidien, en fait.
Malheureusement, quand on fait partie des moyennes consommations, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas droit à grand-chose. Et pourtant, je travaille avec ma voiture, c'est mon outil de travail.
Les retraités, eux, ne seront pas concernés par ce dispositif. Quant aux demandeurs d'emploi, ils devront respecter une procédure particulière. 10 millions de personnes devraient bénéficier de cette indemnité carburant mise en place au début du mois de janvier. Coût de la mesure, 1 milliard d'euros pour les finances publiques.
Alors, Jean-Michel Salvatore, quand on a goûté au chèque, c'est pas facile de sortir de la logique. Il y a Dominique Seux, la semaine dernière, sur France Inter, qui s'était amusé à les lister. Il en a recensé une dizaine. J'en cite quelques-uns. Chèque carburant, chèque fuel, chèque bois, chèque vélo, chèque appareil électroménager, chèque Noël, chèque inflation, chèque voiture électrique.
Bah oui, et alors évidemment, comment être contre? Parce qu'évidemment, on voit bien que les prix de l'énergie explosent et que. On a vu en Grande-Bretagne ce qu'il arrivait quand l'État ne venait pas au secours des consommateurs et des ménages, bien sûr. Mais c'est une drogue dure. Et le sevrage est obligatoire parce qu'évidemment, on ne peut pas multiplier comme ça les aides. L'État-providence, l'État-nounou, ça coûte cher. La France est un pays surendetté. Il faudra bien qu'un jour, quelqu'un paye. Alors, on sait très bien que ceux qui touchent les chèques sont les mêmes que ceux qui les payent, en fait.
D'ailleurs, faire la réforme des retraites, c'est peut-être une façon d'acheter la bienveillance de Bruxelles avec ces fameux critères de Maastricht, même si on sait que... Ils ont été plus ou moins abandonnés.
Oui, bien sûr, mais la dette, elle existe. Bruxelles ou non, la dette existe et il faudra bien la payer. Et là, on est dans une espèce de quoi qu'il en coûte général. Et encore une fois, c'est vraiment une drogue dure. On s'habitue à voir l'État arriver avec une prime lorsqu'il y a un problème. Alors évidemment, bien sûr que c'est difficile d'être contre. Mais qui va payer et au bout du bout, qui paiera?
Alix Bouyaguet, c'est vrai qu'il y a une catégorie de Français qui n'a pas le bouclier énergétique. Ce sont tous les artisans, les boulangers. On multiplie les reportages dans ces boulangers où on voit des boulangers mais effarés voir leur facture d'énergie multipliée par 10.
Oui.
Et le gouvernement bien en peine d'apporter une solution. Alors si, il apporte une solution, mais pas à la hauteur du choc énergétique qu'ils subissent.
Effectivement, il y a toute cette catégorie de travailleurs, de salariés qui échappent aux aides de l'État. Et puis, il y a ce ventre mou. On entendait le témoignage d'une dame dans le reportage, qui dit, il y a ceux qui sont suffisamment riches pour pouvoir se passer des aides. Il y a ceux qui sont pauvres et qui en ont besoin. Mais en fait, il y a toute une partie de la population de Français qui voit cet argent s'écouler, ces chèques distribués, et qui se disent, mais à quel moment nous, on profite, entre guillemets, on ne roule pas sur l'or, et à quel moment on profite aussi de tout ça. Donc, c'est vrai qu'en termes de psychologie, il y a un moment que
ça, c'était les gilets jaunes. Hein.
Et c'est pour ça que LR, d'ailleurs, avait exigé que la ristourne soit pour tous les Français précisément.
Alors, elle va quand même toucher.
Pardon. Et je termine mon propos. Le gouvernement, il s'est bien rendu compte de ça. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, il travaille spécifiquement sur ce ventre mou, sur ces gens.
Cette classe moyenne qui a l'impression de payer pour tout exactement. Et de ne rien recevoir en retour.
Ça va quand même concerner 10 millions d'automobilistes. Pour un célibataire, il faudra gagner maximum 1 400 euros. Malgré tout, ça va toucher beaucoup de monde. La mesure, ce chèque carburant, va coûter 1 milliard d'euros. Mais si j'ose dire, ça n'est pas beaucoup dans la psychologie du gouvernement. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Autant le gouvernement Emmanuel Macron ne craint pas forcément un mouvement social traditionnel à l'ancienne, avec de grandes manifestations, peut-être se trompe-t-il, mais il ne le craint pas sur les retraites. Autant... Sur le carburant, c'est un sujet, de ce
inflammable.
Cliché inflammable, bien entendu. Et là, il n'est pas question de tergiverser, même si on multiplie les chèques, même si les chèques sont sans provision. C'est un sujet sur lequel le gouvernement, Matignon, l'Élysée sont vigilants, plus que vigilants, et pensent que c'est ce qui peut déclencher un mouvement incontrôlable, loin des syndicats, mais dont on ne connaîtrait pas l'issue.
Alors, il y a pire que l'envolée des prix de l'énergie, il y a les coupures d'énergie et c'est ce à quoi il faudrait se préparer, notamment à cause de la période de froid, alors que notre parc nucléaire est en partie indisponible. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que la France, qui était un grand pays exportateur d'électricité, se retrouve aujourd'hui largement dépendant de l'électricité de ses voisins au point de pouvoir en être privé? Sujet de Christine Méral et Claude Eudes.
Rassuré, la mission du jour pour Bruno Le Maire en visite ce matin dans une centrale nucléaire. Selon lui, un hiver sans coupure d'électricité est possible.
Arrêtons de nous expliquer que les réacteurs sont fermés, que c'est la catastrophe, qu'on ne va pas s'en sortir, que l'hiver va être insupportable, ce n'est pas vrai.
Autrefois florissante, la filière nucléaire est en crise. Comment en est-on arrivé là? Retour sur 25 ans de polémique. Longtemps, la France a eu un dogme, le tout nucléaire. Première brèche en 1997 avec le socialiste Lionel Jospin.
Sous la pression des écologistes, le Premier ministre renonce à la construction d'un nouveau réacteur.
Le surgénérateur qu'on appelle Superphénix sera abandonné.
Changement avec Nicolas Sarkozy en 2007. Il autorise un nouvel EPR en Normandie, un ardent défenseur de la filière.
Si demain, vous coupez la moitié du nucléaire, vous devez faire avec le pétrole et avec le charbon. Plus polluant que le nucléaire. Beau résultat.
Mais en 2011, survient Fukushima. La catastrophe relance le front anti-nucléaire. 2012, François Hollande, PS et écologiste, signe un accord pour fermer 24 réacteurs.
J'ai fixé la perspective de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50%.
Finalement, seul Fessenheim sera fermé. Et aujourd'hui, les écologistes assument leur choix.
L'accord de 2012, au contraire, était visionnaire, puisqu'il anticipait la fermeture d'un certain nombre de réacteurs qui, de fait, aujourd'hui sont fermés, parce qu'ils sont en panne, parce qu'ils dysfonctionnent.
2018, Emmanuel Macron envisage, lui aussi, de diminuer la part du nucléaire.
Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035.
Revirement en 2022. Emmanuel Macron relance la filière, 6 nouveaux EPR prévus, voire 14 au total. Au sein même de son parti, certains font leur mea culpa.
Moi, je suis prête à concéder des erreurs par notre majorité, par celle de François Hollande, par celle d'avant. Je crois que finalement, c'est 25 ans peut-être de manque d'investissement dans cette filière.
À l'Assemblée, une commission d'enquête se penche sur les raisons de la perte d'indépendance énergétique de la France.
Jean-Michel Salvatore, on s'aperçoit qu'on a été victime d'un stop and go politique, comme on dit, sur cette question du nucléaire.
On était plutôt sur un stop and stop, quand même. Hein. Puisque finalement, quand on regarde, depuis 15 ans, on n'a pas eu de politique énergétique. La seule chose qu'on a été capable de faire, c'est de faire des soustractions en disant bah, y a trop de nucléaire, il y a trop de parts de nucléaire dans l'électricité, on ne veut pas non plus d'éoliennes. Hein, vous avez les Républicains qui ne veulent pas d'éoliennes. Vous avez même Marine Le Pen qui veut démonter les éoliennes. On est, par rapport aux Allemands, il y a 4 fois moins d'éoliennes en France qu'en Allemagne. Donc, on a fait des soustractions et on n'a jamais réalisé que s'il y avait des soustractions à faire, il fallait aussi faire des additions. Et donc, la politique industrielle, la politique énergétique n'a pas existé depuis 15 ans. Sarko a essayé, bien sûr, mais c'est vrai que les problèmes de Flamanville ont été un handicap considérable. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la politique du nucléaire, qui était une force de l'économie française, qui était défendue à la fois par les gaullistes et par les communistes, cet atout, finalement, s'est étiolé. On l'a beaucoup critiqué, on a essayé de le démanteler et on s'est ravisé un peu tard. Et résultat, on aura des coupures de courant.
Et c'est vrai qu'Alix Bouyaguet, on a entendu un Bruno Le Maire assez remonté en disant arrêtons de dire que tout va mal et qu'on va vivre des coupures d'électricité, parce que c'est terrible, les coupures d'électricité, ça renvoie aux pays en développement. On a l'impression, ah ben voilà, la France qui était un grand pays avec son fleuron EDF aujourd'hui,
ah oui,
comme dans les pays en développement, on nous coupe l'électricité.
Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les Français ont un véritable sentiment de déclassement. On était à la proue technologique du nucléaire, on vendait nucléaire partout dans le monde et on se retrouve à importer de l'électricité d'Allemagne. Donc c'est vrai qu'il y a ce
force... Notre ego en prend un coup.
À notre ego en prend un coup et c'est vrai que c'est une succession depuis quelques temps. Mais il y a eu vraiment un gros raté en termes de communication gouvernementale, parce que il y a 15 jours, en fait, le message, il devait être simple, c'était il n'y aura pas de coupure, et si jamais il y en a, ça sera la marge et on est prêt. Or, le message s'est complètement inversé. C'est « il va y avoir des coupures, tenez-vous prêts ». Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, à un moment, il a sifflé la fin de la récré, parce qu'il entendait tous ses ministres sur les plateaux dire « les coupures, les coupures, les coupures ». Donc tout ça, il a voulu remettre les choses dans le sens. Alors maintenant, on a effectivement en sens inverse. C'est-à-dire qu'on a les Bruno Le Maire qui disent « il ne faut pas s'alarmer ».
Il est bon soldat, Bruno Le Maire,
pour le coup, il est très bon soldat, parce que en clair, il essaye de calmer les peurs légitimes des Français en se disant bon, on va raison garder, on a un plan et si jamais il devait y avoir des coupures, eh bien on sera prêt et ça ne touchera pas grand monde, 2 heures l'après-midi, tout le monde sera prévenu. Voilà, il essaye de remettre un peu d'ordre dans tout ça.
Jeff Wittenberg.
On aura des coupures de courant. J'ai envie de dire, on verra bien. C'est comme pour c'est comme pour les mouvements sociaux. La semaine dernière, RTE qui s'occupe donc de la régulation de l'électricité, disait bon, pour l'instant tout est au vert et pourtant on est quand même dans une mini vague de froid, donc le gouvernement table sur peut-être qu'on passera l'hiver sans souci. C'est ce que dit Bruno Le Maire de façon un peu martiale, mais peut-être n'a-t-il pas les éléments. Mais pour rebondir sur ce que disait Alix Bouyaguet, il s'est passé quelque chose de très précis, en fait. C'est que le porte-parole d'Enedis, qui est le réseau qui s'occupe de l'électricité,
qui gère les lignes à haute tension,
a fait ce qu'on appelle une gaffe en expliquant que les personnes qui sont sous respirateur artificiel n'étaient pas prioritaires. Aussitôt, Marine Le Pen, notamment, s'est engouffrée de la brèche, a fait un tweet, voilà où on en est, c'est ahurissant. Et donc c'est aussi là-dessus, au-delà des éventuelles ambiguïtés des ministres, qu'Emmanuel Macron, il se trouve que j'étais avec lui la semaine dernière en Albanie lorsqu'il a poussé ce qu'on peut appeler un coup de gueule, a dit « faut arrêter avec les scénarios de la peur, c'est absurde ». Et on sentait un véritable agacement du président parce que pendant quelques jours, on a cru que il y allait y avoir en France des problèmes de coupure d'électricité, alors que peut-être ce sera quelques délestages. La Suède, par exemple, en aurait aussi. Voilà, il n'y a pas de drame a priori, mais...
Il n'a pas peur politiquement quand même que ça lui retombe dessus, parce que c'est Emmanuel Macron qui a anticipé sur la fermeture de Fessenheim.
C'était une décision de François Hollande, quand même. Il a exécuté ce qu'avait
alors l'idée, c'était
François
de fermer Fessenheim quand Flamanville aurait ouvert. Alors, vous allez me dire... Flamanville a à moitié ouvert, puis refermé. Donc bon,
au-delà de ça, compliqué.
Il n'a pas rectifié la décision,
mais après, il a amplifié ça.
On l'entendait
sans construire de nouveaux parcs nucléaires.
Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Moi, je trouve qu'il est normal que Enedis prépare les Français à des coupures éventuelles. Personne ne sait s'il y aura des coupures, s'il n'y aura pas de coupures. Là, on voit bien que depuis 2-3 jours, on est en train d'avoir le mois de décembre le plus froid depuis 3 ou 4 ans. Bon, peut-être que le mois de janvier va être encore plus froid. Donc, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. C'est vrai que lors du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais rien n'avait été préparé. Les masques avaient été détruits. Les stocks stratégiques de masques avaient été détruits. Et là, on était tombé sur le gouvernement en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ?» Rien n'est prêt alors qu'il y a une épidémie majeure qui aurait pu être prévue. Là, aujourd'hui, il y a une difficulté qui survient. Le fait qu'ils essayent de faire de la pédagogie en disant aux Français s'il y a des coupures, voilà comment ça se passera, ça ne me semble pas totalement illégitime parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce que seraient des coupures. Moi, je pense que des coupures d'électricité en France, c'est un vrai traumatisme parce que c'est un marqueur de pays sous-développés. C'est un marqueur, finalement, de la désindustrialisation de la France. C'est un marqueur d'une certaine incompétence et d'une certaine incurie. Bon. Et donc, évidemment, que le jour où il va y avoir des coupures de courant...
On se tournera vers le château.
Mais bien sûr, parce que finalement, L'énergie, c'est comme le sang qui coule dans les veines. Si vous voulez, le fait d'être obligé de couper le courant pendant 2 heures, à mon avis, c'est un traumatisme national important avec des répercussions qu'il ne faut pas sous-estimer. Qu'est-ce qu'on fait pour les écoles? Qu'est-ce qu'on fait pour les cantines? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vont se retrouver dans les ascenseurs? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont des aspirateurs à la maison? Donc tout ça, ce sont des vrais sujets. Et alors évidemment, comme ils en ont trop fait, Macron s'est dit « Oh là là, on est en train de faire peur aux gens, il faut rectifier le tir ». Mais moi, je trouve quand même que les conséquences, que les micro-conséquences de coupure des électricité dans les villes, seront très importantes.
D'une hypothèse. Ce sont quand même les conséquences d'une hypothèse.
Alix Bouyaguet, on entend peu les écologistes sur ce terrain. Quand même, c'est un de leurs domaines, l'énergie. Et d'ailleurs, l'écologie même s'est bâtie sur le non au nucléaire. Ils sont droits dans leurs bottes en disant, d'ailleurs, je cite Marine Tondelier, qui est la nouvelle présidente du parti, elle dit « L'écologie n'est pas consensuelle. Au fond, ils ont un message de sobriété qu'ils assument. »
Ah oui, ils assument jusqu'au bout. Même Marine Tondelier, qui n'est pas la plus radicale au sein de son mouvement, qui est la toute nouvelle secrétaire nationale des Verts.
L'écologie n'est pas consensuelle.
L'écologie n'est pas consensuelle. Eux, oui, ils continuent à être... contre le nucléaire, pour la baisse en tout cas de la part du nucléaire, pour le développement des énergies renouvelables, et en disant, si on doit se passer un moment de courant, on se passera de courant. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait de mea culpa en disant, si on avait gardé nos centrales, on aurait un hiver plus chaud.
Alors pourquoi parle-t-on de Marine Tondelier et pourquoi ai-je fait cette transition? C'est parce que c'est la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts qui a été élue donc à la tête du parti. Sa ligne l'a emportée face à celle de Yannick Jadot et de Sandrine Rousseau. Qui est Marine Tondelier et où vont les Verts? Sujet de Julien Nenny, Hugo Capelli et Steven Pichavant.
À peine élue, la nouvelle patronne des Verts doit relever un défi de taille. On va repartir à l'offensive, on a énormément de travail. Vous allez voir.
Ce défi, on pourrait l'appeler le paradoxe vert. D'un côté, l'urgence climatique qui, après la sécheresse et les incendies de cet été, est devenue la deuxième préoccupation des Français à 34% derrière le pouvoir d'achat. Mais de l'autre, une écologie politique qui peine à trouver le bon rythme aux élections. En témoigne le score décevant de Yannick Jadot, 4,6% à la dernière présidentielle.
On doit s'élargir, on doit s'ouvrir, et ça veut dire un peu moins se parler entre nous.
Pourtant, le parti a des atouts. Un groupe parlementaire à l'Assemblée comme au Sénat et 8 maires de grandes villes, dont Lyon et Bordeaux. Mais ces derniers temps, les polémiques Rousseau et Bayou ont pu brouiller l'image du mouvement, qui est aussi concurrencé par les autres partis de gauche, tous désormais convertis à l'écologie. Alors pour ces militants, une prise de conscience est indispensable.
Le parti n'a pas fait l'effort nécessaire pour aller chercher des gens, faire de la promotion là où il faut, là où sont les gens, sur les réseaux sociaux.
Clairement, il faut qu'on devienne plus sexy. De toute façon, la lutte pour le climat, c'est sexy. Moi, je suis convaincu. Bah, montrons-le aux gens.
Un parti plus sexy, ça passe peut-être déjà par un changement de nom. À l'été prochain, EELV deviendra les écologistes. Mais selon ce chercheur, le changement nécessaire est plus profond.
Ils n'ont pas la culture ni du chef, ni du leader. À chaque fois, quand ils ont quelqu'un qui prend trop la lumière, alors ils lui reprochent de prendre trop la lumière, alors que l'écologie, c'est quelque chose de collectif. Et c'est leur côté associatif encore. En politique, en France, avec le système présidentialisé, eh bien, ça ne fonctionne pas.
Pour grandir, le parti écologiste mise aussi sur de nouvelles troupes de 12 000 adhérents. Aujourd'hui, la nouvelle secrétaire nationale espère attirer 1 million de sympathisants d'ici 3 ans.
Alors, Jeff Wittenberg, qu'est-ce qui ne va pas chez les Verts? Parce que le thème, ils ont du vent dans les voiles, comme on dit. Et pourtant, le bateau n'arrive pas à bon port.
Ce qui ne va pas, c'est difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs mois, les Verts, ils sont éclipsés par une personne, ou ils sont représentés par une personne qui s'appelle Sandrine Rousseau, qui fait le buzz quasiment toutes les semaines, qui parle de barbecue, de plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'on a notamment évoqué bien davantage les violences conjugales, ce qui est un sujet ô combien important, le cœur de métier de ce parti qui est le climat. On ne sait pas, vous le disiez en préambule, ce que veulent vraiment les écologistes en termes d'énergie, parce qu'il y a une petite frange, elle n'est pas chez EELV, bientôt les écologistes, qui pensent que par exemple le nucléaire n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il n'y a pas vraiment de solution alternative, propose-t-il. Et donc leur problème, il est là, il est dans le discours, il est dans les pratiques, il est dans l'identité même de ce parti que les Français ne voient plus comme celui qui défend l'écologie et les solutions surtout pour faire face à tous les défis que chaque Français voit devant lui.
Jean-Michel Salvatore, Sandrine Rousseau, elle fait du mal au parti d'Europe Écologie Les Verts en l'éloignant de son discours, à savoir l'environnement, ou au contraire, elle pose des débats, elle bouscule le débat et elle pose sur la table des questions qui étaient jusque-là escamotées.
Elle fait avancer certaines causes, ça, incontestablement. Les violences faites aux femmes, enfin, je pense qu'elle a une parole qui compte et qui est très utile. Le problème, c'est que du point de vue des écolos, on ne voit pas très bien, si vous voulez, la connexion entre ça et puis le combat écolo. Le problème des écolos, c'est ce que disait Jeff très bien, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est un parti de Yaka, Faucon, mais on n'est jamais dans les solutions. Et c'est le problème parce que, on voit bien que dans l'opinion, le combat pour la planète est en train de pénétrer la société française. On voit bien que dans les entreprises, dans les administrations, les Français, dans leurs gestes quotidiens, sont tout à fait conscients de ça et commencent à modifier leur comportement. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais quand il s'agit de traduire politiquement cette préoccupation pour la planète, on se retrouve avec un parti qui est très radical, qui ne propose jamais de solution réaliste et qui, très souvent, a une vision assez punitive de la politique. Et c'est ce qui explique que tous ceux qui partagent la préoccupation pour la planète ne votent pas pour les écolos parce qu'ils voient bien qu'il y a une déconnexion entre ce qu'ils peuvent faire et ce que leur proposent les écolos.
Alors, Alix Bouyagué, on a l'expression de vert pastèque, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. D'ailleurs, ils sont au sein de la NUP. Est-ce qu'il y a un risque, comment dire, de se faire phagocyter par l'aile gauche qui fait que le combat écologique passerait en second plan.
Ouais, alors ils ont un avantage en ce moment, les Verts, c'est que finalement la France insoumise est presque plus mal en point qu'eux. Ils sont inaudibles entre les règlements de compte des uns des autres, l'affaire Quatennens.
Alors on y va, et la polémique du jour, là, tiens, on va voir la une de Libération.
Et la polémique du jour, effectivement.
C'est qu'au moins chez les Verts, il y a des élections pour nommer la. Alors allez-y, je vous laisse parler. Commentez-nous cette une de Libération.
Oui, donc c'est Clémentine Autain qui explique qu'il faut effectivement
démocratiser la France insoumise. Pourquoi il n'y a pas de démocratie à la France insoumise ?
Clémentine Autain, c'est la petite musique qu'elle fait entendre, même d'ailleurs, il me semble que c'était même avant l'affaire Quatennens, où elle expliquait qu'il y avait quand même des soucis, que c'était un parti gazeux, où les décisions étaient prises dans un petit cénacle avec des initiés, des politiques proches de Jean-Luc Mélenchon, et tout ça n'était pas très transparent. Elle le disait à ton mesuré et à pas feutré il y a un mois. Là, c'est vrai qu'elle sort la Kalachnikov. Pourquoi elle sort la Kalachnikov ? Parce que, d'une part, Adrien Quatennens a été en retrait, c'était le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, et que finalement, Jean-Luc Mélenchon, il cherchait un nouveau dauphin. Que ce nouveau dauphin devrait être Emmanuel Bompard, et que tout ça s'est fait, visiblement, d'après ce qu'elle explique, sans la moindre concertation. Mais il y a un match dans le match. C'est-à-dire qu'il y a aussi... le match par rapport à François Ruffin, à tous ces autres électrons un petit peu libres du parti qui se disent le chef est un peu mal en point, le dauphin, ça ne le fait pas, donc je fais entendre ma petite musique. Donc là, il y a un jeu de bonneteau. D'ailleurs, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon a réagi de manière assez sèche.
Alors, il a dit toute la une pour me salir.
Voilà, alors on ne sait pas trop si pointe Libération dans son ensemble, parce que les papiers, effectivement, expliquent le trouble qui se passe autour de Jean-Luc Mélenchon ou Clémentine Autain, mais effectivement, elle en a pris pour son grade. En même temps, elle prend son risque, hein, comme dirait Emmanuel Macron.
Leader maximo, quoi, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'on lui reproche.
Il se trouve que samedi, aux Quatre Vérités, nous recevions Alexis Corbière qui m'a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une vraie crise de confiance autour des grognards, des anciens grognards de Jean-Luc Mélenchon, qui trouvent que là, il pousse un peu en s'agrégeant autour de lui une bande de jeunes, hein, c'est comme ça que ses opposants entre guillemets parlent, et qu'il n'y a aucune démocratie à la France insoumise. Ils ont expliqué que les élections, ben, finalement, c'était pas forcément nécessaire parce qu'il y a des compétences qui sont là et qu'il faut les utiliser. Et c'est quand même une grande différence avec Marine Tondelier, qui est, comme vous le disiez, élue à la tête des Verts et qui justement veut s'affranchir, c'est dans son programme, de la NUPES. Donc on peut aussi avoir un peu d'espoir pour ceux qui en souhaitent par rapport à cette autonomie des écologistes.
Oui, Jean-Michel, ça va être.
Ouais, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, Mélenchon n'a pas de mots assez durs pour critiquer la Ve République, qui serait une monarchie absolue. Et on se rend compte son parti, la France
Insoumise... Comme dirait, pour citer Clémentine Autain, ça manque de démocratie.
Bah, la France Insoumise, elle est plus 5e République que 6e République.
Alix Bouillaguet, c'est incroyable. Cette émission se termine. On a parlé de comment LR va essayer de ressusciter. On n'a pas dit un mot sur le Parti Socialiste. C'est symptomatique de quoi, ça ? On a parlé de tous les partis, sauf de ce parti qui a donné quand même plusieurs présidents à la France.
Sa difficulté, effectivement, à trouver sa place. Olivier Faure, il a eu une stratégie, hein, qui était d'être dans les pas de Jean-Luc Mélenchon. Il a des élections dans un mois. Il va devoir faire face à deux autres candidats qui sont, pour le coup, sur une toute autre ligne. Ça sera très intéressant de voir comment les socialistes s'y retrouvent. Parce que, effectivement, la législature, elle commence à peine. Donc, ce serait bien, effectivement, de requalifier tout ça.
LR a peut-être un avenir, le Parti Socialiste, il va falloir sortir les rames pour...
Le congrès du Parti Socialiste a lieu début 2023, comme le disait Alix. Olivier Faure, qui a de grands élus derrière lui, des maires de grandes villes notamment, peut sauver son siège parce qu'il a choisi une stratégie qui a permis au PS de garder des députés, parce que sans l'alliance avec notamment la France Insoumise, ils auraient pu avoir moins de 10 députés. Maintenant, sur la ligne, on le sait, y compris chez les électeurs, y compris dans l'électorat social-démocrate, entre guillemets, il y a plus que des désaccords sur le fait d'être allié au parti de Jean-Luc
Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incarnation aussi au Parti Socialiste ?
Ça, évidemment, mais c'est vrai que ce qui se passe à la mairie de Paris est intéressant, parce qu'on voit bien que la mairie de Paris, ça reste le bastion du Parti Socialiste quand même.
Absolument.
Et on voit bien que...
Odeur de fin de règne quand même.
Odeur de fin de règne, on voit bien à quel point les macronistes sont intéressés par l'héritage d'Anne Hidalgo. Et on voit bien que là, il va y avoir une bataille politique très dure entre les macronistes, Emmanuel Grégoire, qui sera sans doute le candidat du Parti socialiste, et puis Rachida Dati, et puis peut-être les Verts, hein, peut-être Yannick Jadot.
Voilà, en attendant, donc, LR s'est trouvé un nouveau président, Éric Ciotti, qui, lui, n'a pas d'ambition présidentielle, ou faut se méfier, la fin venante...
En politique. Hein, si Laurent Wauquiez se retirait, qui sait, enfin, on est dans la politique fiction.
Prochaine échéance, ce sont les élections européennes
en
2024.
Voilà.
Et ben voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour une émission consacrée à l'Ukraine, alors que Emmanuel Macron recevra donc une conférence humanitaire pour aider les Ukrainiens qui s'apprêtent à traverser l'hiver sans électricité ni eau. Merci d'avoir participé et d'avoir regardé cette émission. À demain. Bonne journée sur France Info.